Merci Laetitia Gaillet, on se retrouve à 11h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine, cuisine, décoration, jardinage, voyage, lecture et mille autres choses. Et ce matin, on s'intéresse aux bienfaits de la cuisine vapeur, un mode de cuisson sans doute né en Chine il y a environ 10 000 ans. Nous vous donnerons des conseils pour des repas sains et savoureux. Notre chef Grégory Cohen vous délivrera la recette vapeur préférée de nombreux Français, le couscous. Les journalistes Christine Lapelle-Edouel et Julien Bisson évoqueront le plaisir de lire l'œuvre pour adultes de Roald Dahl. Et notre chère consoeur Jacqueline Petros partagera sa passion pour les livres de poche à l'occasion du festival Lire en Poche ce week-end à Gradignan. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Vous nous proposez ce matin une petite philosophie de la connerie.
Oui, alors non pas que ça nous concerne ici,
merci,
évidemment. Mais c'est à l'occasion donc de la 13e semaine de la pop philosophie qui commence à Marseille lundi et qui cette année a pour thème donc les constellations de la connerie.
À tout à l'heure. Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
La chroniqueuse qui ne supporte pas que je la vouvoie pendant sa chronique. Quel est le menu ?
Eh ben, on va parler, nous aussi, de plaisir à la vapeur, mais au sexe. Et donc, je laisse la surprise pour tout à l'heure.
Ça promet. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Oh, bonjour Ali Rébéi.
Notre chef bien-aimé, vous êtes le parrain de la semaine du goût du 11 au 17 octobre, c'est ça?
Exactement.
C'est du 11 au 17 octobre.
La semaine du goût, en fait, c'est 10 000 enseignants, 10 000 classes qui sont dans toute la France ouvertes avec 3 000 professionnels de la des métiers de bouche qui vont là-bas dans les classes et qui font des cours de cuisine, des cours de goût. Et cette année, la thématique, c'est le voyage, évidemment bien manger. Donc on va essayer d'éveiller un petit peu les enfants au bien manger, au mieux manger.
Est-ce qu'il y aura du couscous au menu ?
Il y aura sans doute du couscous, il y a toujours du couscous, vous savez, quelque part.
Ce sera le plat que vous nous proposerez tout à l'heure à partager ce week-end. Hein.
Exactement.
Bonjour Jacqueline Petros.
Bonjour Ali.
Bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir. Bien connu des auditeurs et des auditrices de France Inter, on connaît votre amour pour les livres de poche. Et on vous retrouvera ce week-end, à partir d'aujourd'hui, au salon Lire en Poche à Gradignan, en Gironde. C'est un salon créé en 2005. Et le thème, c'est goût de lire, soif d'écrire, c'est ça ?
Ah oui, oui, il y a de quoi faire parce qu'il y a plus de 70 auteurs qui seront là cette année. L'année dernière, il n'y a pas eu de salon, enfin un salon qui était virtuel. Donc là, ça va être un grand plaisir de se retrouver avec les lecteurs, avec les auteurs et puis le livre de poche, la culture vraiment pour tout le monde et à la portée de tous. Donc franchement, ça va être très intéressant.
Et on reviendra tout à l'heure sur votre amour pour ce format. Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Alias Lady Crumble dans certains milieux spécialisés. vous êtes la co-auteur, la co-autrice de la version poche de la revue Grand Main vous fasse. Le numéro 2 vient de sortir, c'est tout chaud, chez Pocket. Ça s'appelle La puissance des liens, avec des entretiens avec Boris Cyrulnik, Thierry Lhermitte, Belinda Cannon, avec une jolie couverture signée Mathieu Persan.
Oui, un sacré travail en commun, beaucoup d'auteurs et puis j'espère, mais j'en suis sûre que ça parlera, que ce numéro parlera au maximum de personnes, de lecteurs justement. Et puis le format poche, eh bien voilà, ça tombe bien, facile à mettre dans son sac et facile à lire pendant le trajet pour aller à Gradignan.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, quelle est la une cette semaine ?
Eh bien cette semaine de l'agence 007 à l'espion 2.0 au moment de la sortie du nouveau James Bond, on vous présente les nouveaux visages de l'espionnage français.
Alors vous êtes invité ce matin Julien Bisson, car vous éditez chez Gallimard dans la collection Quarto, Contes de l'inattendu, nouvelles, romans, récits. C'est absolument formidable. Christine Lapelle-Edouel, vous êtes absolument fan de cet objet.
Alors, je suis fan de l'auteur, je suis fan de l'objet et je salue, mais vraiment très bas, le travail de Julien, qui est remarquable de bout en bout.
Conte de l'inattendu de Roald Dahl. Roald Dahl, mondialement connu pour ses écrits destinés à la jeunesse, comme Charlie et la chocolaterie, Sacrée sorcière, Mathilda ou Le bon gros géant. Et il fut également un auteur génial pour adultes, Mon oncle Oswald, Bizarre Bizarre ou Kiss Kiss. Écoutons Roald Dahl, né en 1916 au Pays de Galles et décédé en 1990 à Oxford. C'était sur la BBC en 1982.
Il est entré et il m'a dit « Viens déjeuner avec moi et raconte-moi la chose la plus palpitante qui te soit arrivée. » Je l'écrirai et ce sera publié dans le Saturday Evening Post et ce sera une bonne publicité pour la Grande-Bretagne. Forrester essayait de prendre des notes et manger son canard en même temps. Il n'y arrivait pas et je le voyais. Je lui ai dit, est-ce que tu aimerais que je mette tout ça par écrit ce soir et que je te l'envoie pour que tu puisses le mettre au propre? Il a répondu, oh, ce serait extraordinaire. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de sa part avec un chèque de $1,000 disant « Je n'ai pas retouché un seul mot. C'était fantastique et ils en veulent plus. » C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai passé les 25 années suivantes à écrire de courtes histoires pour adultes. Rien de plus. Et puis j'ai eu mes propres enfants et je leur racontais des histoires avant le coucher. Rien de plus classique. Et je me suis dit « Mais pourquoi je n'essayerais pas d'en écrire moi-même ?»
Roald Dahl sur la BBC en 1982. Alors Julien Bisson, on retient de Roald Dahl l'image d'un grand-père malicieux avec son gilet rouge et sa canne, déambulant le crâne chenu au cœur de la campagne anglaise. Je vous cite, hein. Mais il existe également un autre Roald Dahl, plus méconnu et plus subversif.
Oui, et c'est ce Roald Dahl qui a longtemps écrit pour les adultes. Alors quand on l'entend ici et qu'il parle de sa toute première histoire, c'est une histoire parue en 1944, hein, parce que Roald Dahl, avant d'être un grand écrivain, a eu une vie assez incroyable. Il a été pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a eu un accident qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'accident que raconte Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. C'est assez amusant, un accident dans le désert où il va manquer de perdre la vie. Et puis ensuite, on parlait de James Bond, il va aussi devenir agent secret aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et un peu juste après, où il va essayer d'embarquer l'opinion publique américaine dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il va devenir écrivain, après sa sortie de la guerre, il va devenir écrivain, il va publier un premier texte qui s'appelle Les Gremlins. On pense toujours que Les Gremlins, c'est un film avec des bestioles des années 80, et en fait, c'est à la base un récit que lui-même avait écrit. Et il se rêve alors en très grand écrivain, en grand romancier. Il est admirateur d'Hemingway, il est admirateur de Dickens. Et il va écrire quelques romans qui vont être assez ratés. Et à ce moment-là, il va se mettre à la nouvelle. Et la nouvelle, ça va vraiment être l'exercice dans lequel il va exceller, parce qu'il y a tous les éléments qui sont sa marque de fabrique, c'est-à-dire un art de la chute incroyable, un art du portrait ciselé de personnages croqués en quelques lignes de façon très cruelle, souvent.
Et il suffit d'ailleurs d'une description physique pour camper un caractère. Hein.
Oui, il arrive en quelques traits, quelques lignes, à camper un caractère qui sont souvent des caractères assez cruel. Il n'épargne rien à ses personnages, que ce soit les hommes ou les femmes. Et puis, il a un humour noir, souvent très noir, qui est vraiment là aussi une marque de fabrique qui ravit encore aujourd'hui et qui annonce ce qu'il fera plus tard pour les enfants. C'est-à-dire qu'il va commencer à écrire pour les enfants que vers les années 60. Et c'est-à-dire que pendant 20 ans, il va écrire d'abord pour les adultes. Il ne se pensera que comme un auteur pour adultes. Et ça sera des récits qui vont se répondre. Ce qu'il a écrit d'abord pour les adultes et ensuite pour les enfants, ça se répond. La hauteur de vue est différente. Mais ce goût de l'humour, ce goût de choquer le lecteur, notamment, sont assez communs aux deux univers.
Et on retrouve des personnages normaux, a priori sans histoire, et dont la vie déraille subitement en raison d'un événement ou d'un élément imprévu. Alors il peut s'agir donc d'un élément extérieur, mais le plus souvent c'est la part sombre qui remonte à la surface dans les nouvelles, dans les romans de Roald Dahl.
Oui, parce que Roald Dahl fait la satire de ses contemporains. Donc ses contemporains, c'est à la fois des bourgeois new-yorkais, des aristocrates londoniens, des gens qui vivent dans la campagne anglaise où il va se retirer assez rapidement. Et ce qu'il traque chez eux, c'est l'idée que nous sommes pleins de frustration, pleins d'une vie qui vit en nous, mais que nous nous empêchons de vivre. Et tous ces personnages sont souvent des gens qui vont tenter, sur un coup de hasard, d'arriver à sortir de leur propre vie. Ou alors des femmes, des épouses délaissées ou martyrisées par leur mari, qui vont vouloir se venger. Il y a beaucoup de parts laissées aussi à l'invention et aux technologies. Cette idée que
ces nouvelles technologies, on est dans les années 50 bien souvent, il y a beaucoup de nouvelles inventions qui arrivent, ça ressemble presque de la magie. Ce qui va être ensuite du fantastique dans ces nouvelles pour enfants, ces récits pour enfants, là c'est de la technique qui ressemble quasiment à la magie et qui là aussi peut faire basculer notre vie.
Christine Appel-Edouel.
Mais il s'inscrit dans une tradition très britannique, la tradition des novellistes. Alors je pense à Saki qui est un peu plus âgé que lui, mais c'est la même génération, et qui sont des ciseleurs des nouvelles. Julien parlait de la chute, de l'art de la chute, qui est absolument remarquable. Mais il y a aussi, et l'humour noir, mais il y a aussi la cruauté. Et cette pincée de cruauté donne toute sa saveur absolument inégalable aux nouvelles de Roald Dahl et d'autres. Je pense à Saki, en effet, qui était aussi un grand maître de la nouvelle britannique. Et c'est un art qu'on a peu ou pas maîtrisé en France, à l'exception de quelques auteurs, mais c'est vraiment typiquement britannique et anglo-saxon.
Après, cette cruauté, elle vient aussi de son regard sur l'humanité. C'est un regard qui est très lucide, très désenchanté. Il a connu la guerre. Il a aussi connu des drames personnels qui vont le marquer très fortement. Il avait perdu sa sœur aînée quand il était tout jeune enfant. Et quand il va devenir père, il va perdre sa fille aînée âgée de 8 ans. Ensuite, son fils aura un accident très grave puisque son landau sera renversé par un taxi. Et donc, il va aussi être marqué par ces épreuves de la vie qui vont véritablement traverser son écriture et qui vont ensuite le ramener à une forme de tendresse. La tendresse viendra plus tard, justement, avec ses récits pour enfants des années 70-80 qui vont en faire une star mondiale. Cette tendresse va arriver plus tard. Quand il arrive dans les années 40-50 et qu'il fait ses nouvelles, notamment pour le New Yorker, la plupart vont être publiées dans le New Yorker et dans quelques autres grands magazines américains. Là, c'est vraiment le règne de la cruauté.
Julien Bisson, racontez à ceux qui n'ont encore jamais lu cette production moins connue de son œuvre. Racontez-nous votre plaisir à lire Roald Dahl. Vous enviez à les lecteurs de son œuvre pour jeunesse qui n'ont pas encore lu l'autre versant de son œuvre.
Oui, parce que nous, on a réuni dans ce quarto, c'est un épais volume de 1500 pages. Donc, pour vous dire, si vous avez adoré lire Charlie et la chocolaterie, Mathilda, Le bon gros géant, Sacrée sorcière et les autres, et que vous n'avez jamais lu Roald Dahl pour adultes, eh ben, sachez que vous avez des heures et des heures de lecture devant vous. Il y a des nouvelles qui sont directement tirées dans l'immédiate après-guerre de son expérience de pilote. Et puis ensuite, ces nouvelles qui seront celles de l'époque new-yorker avec ses portraits satiriques de ses contemporains. Et ensuite, un peu plus tard dans sa vie, il va se déplacer des pages du New Yorker vers celles de Playboy et Esquire. Et là, on aura un autre Roald Dahl encore, un Roald Dahl
plus lubrique.
Qui
lui va bien d'ailleurs. C'était un grand séducteur.
C'était un très grand séducteur. Qui était marié avec
Oui, personnellement.
qui a été marié avec une grande actrice hollywoodienne, Patricia Neal. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des textes qui sont tout à fait lubriques. Je recommande à Maya la lecture de Mon oncle Oswald.
Oui, mais moi, je pars avec le livre, là, on est d'accord.
Plaisir de lire des récits parfois macabres. Julien Bisson, vous établissez un cousinage avec Edgar Allan Poe. Et d'ailleurs, certaines nouvelles de Roald Dahl ont été adaptées dans la série Alfred Hitchcock présente.
Oui, parmi ceux qui ont été adaptés par Alfred Hitchcock dans sa célèbre série, Roald Dahl a été l'un des plus présents. Et Hitchcock lui-même a réalisé, je crois, 4 épisodes adaptés de ses nouvelles. La plus célèbre, c'est Coup de gigot. Coup de gigot, c'est l'histoire d'une femme qui veut se venger de son mari qui lui annonce qu'il va la quitter pour une autre. Et elle vient de rentrer de course, elle saisit le gigot congelé et lui assène un grand coup sur la tête. Le mari tombe mort. Elle appelle la police en disant « Mais je viens de rentrer, je viens de trouver mon mari mort, venez vite. » 2 détectives arrivent et elle leur dit « Mais pendant que vous enquêtez, vous allez bien avoir enfin, je vais vous préparer un petit quelque chose. » Elle met le gigot au four et les détectives dévorent le gigot en se demandant bien où peut être l'arme du crime.
Elle mange la pièce à conviction.
Elle est géniale. Quelle est votre nouvelle préférée?
Alors il y en a une que je trouve particulièrement savoureuse et d'une cruauté mais parfaite. C'est un véritable régal. Alors je ne sais plus le titre, mais de cette femme qui trompe son mari.
Aussi.
C'est une
Madame Bixby et le manteau du colonel.
Voilà, merci. Merci Julien. Et il y a toute une histoire. Son amant la quitte, lui offre un somptueux manteau de vison. Mais comment arriver à faire passer à son mari l'idée que ce manteau de vison est arrivé comme ça jusqu'à ses épaules? Donc il y a toute une histoire avec un prêteur sur gage, etc. Et la chute est absolument géniale. Elle se fait avoir en fait par son mari. mari et elle découvre un jour le somptueux manteau de Vison sur les épaules de la secrétaire de son époux. C'est vraiment génial. Mais c'est un thème assez, assez fréquent. Il y a une autre nouvelle française, cette fois-ci, je crois, qui reprend cette même idée. Donc.
Quels sont d'ailleurs les grands motifs, pour terminer, que l'on retrouve dans l'œuvre pour adultes de Roald Dahl?
Il y a le jeu. Le jeu, parce que c'était vraiment, c'était un grand joueur lui-même. Je veux dire, par là, c'était même quelqu'un qui adorait aller aux courses quand il habitait justement dans sa campagne anglaise. Et il y a cette idée que la vie peut basculer sur un coup de dé. Il y a une nouvelle formidable qui s'appelle un homme du Sud, où c'est quelqu'un qui propose à un jeune garçon, lui disant, tu as ton briquet, et ben, si tu arrives à l'allumer 10 fois de suite, sans jamais que le briquet ne marche pas, je t'offrirai une voiture neuve. En revanche, si une seule fois le briquet ne marche pas, je te couperai un doigt. Et il y a toujours cette idée-là. Et ça, c'est vraiment une scène typique de ce qu'on peut retrouver dans les nouvelles de Roald Dahl, c'est-à-dire la mise en danger de soi pour peut-être avoir quelque chose qui va de nouveau, de formidable, qui va nous arriver. Ça, c'est vraiment un grand motif. Et puis après, il y a la revanche des faibles sur les forts. C'est la revanche des femmes sur leurs maris. C'est la revanche des domestiques sur leurs maîtres. C'est la revanche des plus pauvres sur les plus riches. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important, parce que c'est ce qui va revenir des années plus tard dans ces récits pour la jeunesse, où celle-là, c'est la revanche des enfants sur les adultes. Et il y a vraiment cette idée que, par la littérature, on peut réussir à corriger des injustices. Et cette cruauté-là, elle nous plaît aussi, parce qu'elle sert cette volonté de justice.
Les contes de l'inattendu de Roald Dahl, je promets, je vous garantis de beaux moments de lecture cet automne, avec un bon plaid sur les genoux et une tasse de thé ou de chocolat chaud. Mais vraiment, c'est vraiment idéal en ce moment. Ouais. Et c'est publié chez Quarto Gallimard. Dans un instant, le plaisir de lire des poches et des conseils pour bien cuisiner vapeur. Tout au long de la semaine, Grand Bien Vous Fasse a été préparé par Alexia Rivière, Camille Poux-Jalaguet, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation était signée Claire Destacan, avec à la technique cette semaine Anne-Laure Cochet et Alix Barrois. Programmation musicale, Valentine Chedebois, et on écoute The Weeknd, Blinding Lights.
I can never say it on the phone. They'll never let you go.
The Weeknd, Blinding Lights.
Oh, que c'est beau!
Grand bien vous fasse.
C'est quand même beau, la mer.
C'est vrai que c'est beau. En même temps, c'est toujours pareil. C'est de l'eau qui bouge.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, loisir et le plaisir de lire des livres de poche à l'image de Jacques Prévert.
C'est merveilleux, le livre de poche. Le livre de poche, c'est un peu comme les gens disent toujours, en parlant d'un film qui passe en exclusivité aux Champs-Élysées, j'attends qu'il passe dans mon quartier. Il passe jamais. Tandis que le livre de poche, lui, il passe dans leur quartier. Ça, c'est merveilleux.
Jacques Prévert en 1963. Alors, livre de poche, une invention géniale, née le 9 février 1953, sous l'impulsion d'Henri Philippaki, alors secrétaire général des éditions Hachette. Alors, Jacqueline Pétroche, je rappelle que vous avez été longtemps journaliste à la rédaction de France Inter, vous avez animé une chronique consacrée au livre de poche. Pourquoi cet amour fou pour ce format qui réunit les visiteurs du salon Lire en poche, qui se tient à partir d'aujourd'hui à Gradignan, en Gironde? Pourquoi cette passion folle?
Mais c'est ce que vient de dire effectivement Prévert, c'est-à-dire que le livre de poche, c'est vraiment quand vous achetez un livre à 20-23 euros et vous vous dites bon oui je l'ai aimé mais pas trop, puis finalement pas du tout, je l'avoue que non, ça m'est tombé des mains, mais voilà, 20 euros, alors que le livre de poche c'est facile, c'est-à-dire que c'est pas cher. Si vous êtes trompé, ben vous pouvez en plus le passer à quelqu'un et puis il passe de main en main, puis en plus il est très très souple. C'est quelque chose qu'on peut lire dans le train, qu'on peut lire dans le lit, qu'on peut lire dans un transat, dans un hamac. C'est pas grave, on le tord.
Dans les cabinets.
Éventuellement, je ne sais pas, je connais pas votre vie, Ali, mais éventuellement dans les cabinets. Mais voilà, c'est quelque chose de qu'on emporte partout et qu'on peut tourner à la volonté de notre vie quotidienne. Et c'est pas ce gros livre où il faut s'installer, qui est un peu lourd, etc. Et puis surtout, c'est la culture à portée de bourse qui permettent quand même d'avoir tous les classiques à portée de main. C'est pour les étudiants, c'est quand même quelque chose de formidable, pour les lycéens, etc. Et puis il y a ce côté presque ludique de ce petit format là qu'on peut traîner partout, et puis qui a fait de très gros progrès, parce qu'au départ c'était quand même des couvertures qui étaient pas très belles, qui jaunissaient, c'était pas très beau. Mais maintenant vous pouvez avoir vraiment une librairie de livres de poche, une bibliothèque de livres de poche. C'est joli, quoi, c'est un beau bel objet.
Et vous avez raison, la qualité des livres de poche s'améliore avec des couvertures très inventives qui vous happent. On assiste à une montée en gamme. Je cite la directrice du livre de poche, Béatrice Duval. Elle nous parle d'illustrations originales, de lettrage en relief, de coffrets. On s'autorise tout, nous dit-elle.
Ah oui, tout à fait. Au moment des fêtes, justement, à Noël, il y a des coffrets assez merveilleux, et ils rivalisent tous de tactile. C'est-à-dire que ça peut être avec de la fourrure, la fausse fourrure, hein, je rassure tout le monde, de la fausse fourrure, ça peut être avec des paillettes, ça peut être avec même des petits objets incrustés dans la couverture. Voilà. C'est des cadeaux, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on peut maintenant offrir et qui ne fait pas cheap, ça fait pas, ah ouais, moi, je peux. Franchement, c'est pas voulu. Et là, au moins, on peut maintenant offrir un livre de poche et faire découvrir tout un univers. Et puis, il y a des inédits aussi, de plus en plus, en livre de poche. Parce qu'il y a une tradition, par exemple, aux États-Unis, les premiers romans dont on n'est pas très sûr, dont on ne sait pas trop comment ça va être adopté par le public, eh bien, on sort d'abord le livre en livre de poche. Et s'il a du succès en livre de poche, on le sort en grand format. C'est complètement l'inverse de ce qu'on fait, nous. Et c'est vrai que, du coup, ben, ça donne aussi la possibilité à des jeunes auteurs d'aborder un public qui n'aurait pas été les chercher à 20 ou 25 euros.
Christine Appel-Edouel.
Oui, c'est vrai que en France, c'est exactement le contraire. Hein, exactement le contraire, c'est-à-dire qu'être publié dans une collection de poche, c'est la consécration pour un auteur, vraiment.
Oui, c'est ça.
Exactement. Ça, c'est vraiment très chic, quand même, d'être publié dans le livre de poche. Et je crois que tous les auteurs sont
ravis, bien sûr. Ça assure effectivement un public.
Et ça veut dire en plus qu'il y a un certain nombre de nombre d'exemplaires qui ont été vendus. Oui. Donc, le livre est déjà installé au moment où il est publié en poche.
Et puis, ils sortent de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que vous trouvez assez vite la sortie de la rentrée littéraire. Vous la trouvez assez rapidement. Donc, ça permet aussi d'avoir ce roulement comme ça qui autorise à se dire, bah, celui-là, j'attends un peu, puis je me l'offre en petit format, et puis je découvre un auteur, et c'est formidable, quoi.
Julien Bisson.
Il y a une dimension avec le poche. Je pense que on apprend à aimer la lecture et la littérature avec le poche. Je veux dire, par là, avant qu'on soit en mesure économiquement d'acheter des livres grand format, on passe souvent par les classes à l'école, où souvent on lit les classiques dans le poche, on est étudiant, on achète beaucoup de poches, et la littérature rentre chez nous par le poche. Et donc je pense qu'il y a aussi ce lien vraiment indéfectible qu'on peut avoir avec le livre, avec la lecture, dans ces formats-là.
Et c'est moins
ce que j'allais dire, c'est moins impressionnant.
C'est moins impressionnant, oui, c'est-à-dire qu'il y a une proximité avec le poche, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'acheter un exemplaire de la collection très chic de Gallimard, ça peut être parfois un peu angoissant, et puis un peu cher aussi pour certaines.
Oui, puis il y a le côté
c'est plus simple.
Est-ce que j'ai le droit de lire dans une grande collection? Enfin, j'ai pas l'habitude de lire, ou c'est des univers qui m'échappent. Et au moins un petit livre, ça paraît moins impressionnant, oui.
Grégory Cohen.
Oui, il y a des initiatives aussi dans les petits villages. Moi, en Normandie, dans mon petit village, on a réhabilité une cabine téléphonique.
Oui,
et du coup, elle est remplie de livres de poche. On dépose son livre et on sait qu'il va avoir une deuxième vie, une troisième vie. Il revient, il repart. Donc, il y a ce côté aussi de transmission, de partage avec le livre de poche.
Les boîtes à livres.
Et puis, un côté Madeleine de Proust, titre personnel, dans ma grande période Simenon, mon grand plaisir, c'était de dénicher des poches parues au moment de leur sortie avec des couvertures devenues vintage. Et puis, cette odeur du papier, de l'encre.
Ah oui, ça c'est vrai qu'il y a un côté. Et puis il y a cette souplesse aussi. Moi j'aime beaucoup cette souplesse du livre de poche. Oui. C'est-à-dire cette capacité à le plier à nos volontés, à l'endroit où on est. Et puis par exemple dans le métro quand il y a beaucoup de monde, alors on est là avec son livre de poche et il est de plus en plus près de nous. Alors après il y a le problème de lunettes bien sûr et d'âge, mais c'est vrai que il y a ce côté. Je lis quand même, je le tourne dans tous les sens et je peux quand même accéder à la lecture. C'est-à-dire voilà, lire.
Et on accueille Laurent Guez qui a envie d'intervenir, directeur éditorial Food pour le groupe Les Échos, Le Parisien. On va parler tout à l'heure de la cuisine vapeur, mais vous aviez envie d'intervenir.
Vous disiez dans mes yeux, Aline, c'est vrai que moi j'ai aussi comme vous beaucoup de souvenirs de ces livres de poche que j'adore avoir en poche. Parce que souvent les livres de poche, on les met pas dans les poches, mais quand on a un manteau assez grand, l'idée de pouvoir partir se dire « si j'ai une minute pour lire, je l'ai dans ma poche », c'est quelque chose d'assez merveilleux.
Alors en ce moment, quel livre de poche vous avez envie d'offrir autour de vous? Tiens, Jacqueline Pétros, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir en ce moment?
Alors moi, je me suis plongée pour Gradignan, là justement, parce qu'elle se représente, Catherine Bardon. Je me suis plongée dans la saga des Déracinés, qui vient de finir avec Un invisible été, qui vient de sortir en grand format, mais les trois précédents sont donc en livre de poche.
Chez Pocket,
et c'est une saga. On suit Alma et Willem qui fuient l'Autriche et Vienne après l'Anschluss en 1938 et qui veulent partir aux États-Unis. Les États-Unis ont fermé les portes dans les années 40 assez vite aux Juifs qui voulaient immigrer, et donc ils arrivent jusqu'à Ellis Island et là on leur dit bah non, vous rentrez pas. Alors ils voient New York là, et puis on leur dit non, et ils sont embarqués pour la République dominicaine, et là un certain nombre de familles avec eux, de juifs, vont créer la ville de Souza, et qui existe vraiment, et c'est une histoire vraie. Et donc ils vont, au départ c'est un kibboutz en fait, ils vont déraciner, s'installer, et du coup ils vont reconstruire toute une vie et toute une réalité. Et on les suit sur plusieurs décennies et jusqu'à aujourd'hui, les enfants, les petits-enfants, etc. Et c'est, franchement, ça vous embarque, c'est l'exil, mais avec une force de vie extraordinaire.
Les Déracinés de Catherine Bardon, c'est publié chez Pocket. Qu'est-ce que vous offrez en ce moment, Christy Lapelle-Edouel?
Moi, j'offre les trois volumes qui viennent de paraître dans la petite bibliothèque Payot de Patrick Lee Fermor, qui était un contemporain de Roald Dahl, un écrivain voyageur incroyable, une vie aventureuse de dingue, et c'est extraordinaire. C'est le récit de sa traversée de l'Europe à pied en 1933. C'est un retour sur l'Europe qui a disparu complètement, et il y a des pages extraordinaires, et c'est bourré d'humour, évidemment, cette tradition-là, d'humour noir aussi. C'est absolument formidable, un saut dans l'Europe et un saut dans le temps. Patrick Lee Fermor, c'est un grand classique, il est absolument adulé en Angleterre, il fait partie des grands auteurs, et il a inspiré entre autres Bruce Chatwin, qu'il a connu, et j'ai eu la chance de le rencontrer alors qu'il était très âgé.
Patrick Lee Fermor, à lire dans la petite bibliothèque Payot. Et vous, Julien Bisson, vous offrez quelle poche en ce moment?
Alors moi, je l'offre depuis longtemps. C'est un roman qui s'appelle Trois chevaux d'Éric De Luca. C'est l'un de ceux que j'ai le plus offert dans ma vie.
Chez Folio.
Et je recommande d'offrir à votre tour, notamment aux personnes chères à votre cœur. C'est un grand roman d'Éric De Luca qui est traduit par Daniel Valin et qui raconte l'histoire d'un Italien qui rentre au pays après des années d'exil en Argentine. Sa femme y est morte en combattant la dictature et lui... Il est revenu au pays, il est devenu jardinier, il aime les arbres et les plantes, et il a cette idée que une vie dure la vie de trois chevaux, et que notre existence est marquée par ces chevaux que nous allons connaître au fur et à mesure. Et il est en Italie, il a commencé cette vie de deuxième cheval, et il va rencontrer une l'abeille Layla qui, elle, fait commerce de son corps, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, et c'est vraiment un roman très très fort sur la révolte contre la violence d'un monde qui se fiche bien de notre bonheur. C'est un livre sur le refus et c'est aussi un livre qui donne envie d'aimer éperdument pour pouvoir goûter à la sensualité entre eux. Cette petite extrait pour Maya. La nuit, nous faisons du bruit. Maria est forte comme une chaloupe investie par une mer contraire. Moi, je suis debout et je pousse sur les rames.
Je suis très impressionnée.
Trois chevaux d'Éric De Luca, c'est publié chez Folio. Allez, après le goût des livres de poche, le goût de la cuisine vapeur.
Et aujourd'hui, Ao Tien Dat prépare des raviolis vapeur à la langouste et aux pommes. Après l'avoir farci et plié, vient le moment crucial de la cuisson qui a donné son nom aux raviolis. Vapeur, bien sûr. Ao Tien Dat dépose ses raviolis dans des paniers vapeur. Ces paniers sont en fait percés et posés sur un four un peu particulier.
Là maintenant, du coup, on l'a juste posé dans le four vapeur traditionnel. Qui sont en dessous, il y a une quantité d'eau assez importante en fait.
C'est donc un four rempli d'eau qui fonctionne toute la journée pour produire de la vapeur. Et quand Ao Tien Dat pose ses paniers dessus, la vapeur peut circuler dedans et cuire les raviolis. Mais attention, il faut rester vigilant.
Au niveau de la cuisson, c'est vraiment au second près, en fait. C'est-à-dire que quand vous dépassez le temps de cuisson, après, la pâte, elle casse, et puis elle est moins, elle donne pas la meilleure sensation de bouche, donc, c'est ça qui est important, en fait.
Extrait de la quotidienne en 2016. Bonjour Laurent Guez.
Bonjour Ali.
Alors vous êtes directeur éditorial food pour le groupe Les Échos Le Parisien. Grand amateur de cuisine vapeur, vous proposez un dossier consacré à la cuisine vapeur sur le site du Parisien. L'épicurien que vous êtes est donc un adepte de cette cuisine vapeur.
Bah oui, parce que la cuisine vapeur, on l'imagine très branchée sur la santé, voire sur la diète ou le régime, parce que c'est une cuisson qui permet, on va peut-être en reparler, d'éviter les matières grasses, on peut cuire sans matières grasses à la vapeur. Pour autant, c'est pas un mode de cuisson plutôt qui se limite à une cuisine santé, bien que ce soit un de ses atouts. En fait, dans les quelques façons de cuire les aliments, et la cuisson c'est vraiment même l'étymologie de la cuisine, la cuisson, on a pas grand chose. On peut griller sur un barbecue, on peut rôtir, on peut frire, on peut bouillir. Et on peut cuire à la vapeur. Et vous l'avez dit au début de cette émission, c'est sans doute il y a au moins 10 000 ans que ce mode de cuisson s'est sans doute installé dans la Chine actuelle pour cuire du riz, sans doute, ou d'autres céréales.
Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali.
Chef de la guinguette d'Angèle, vous publiez chez Marabout Bon, Simple et Sain. On pourrait résumer la cuisine vapeur à ça, bon, simple et sain.
Exactement. Et on peut faire plein de trucs avec la cuisine vapeur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une texture très très différente. Donc il faut pas s'attendre à avoir les mêmes choses, évidemment, qu'ailleurs.
Est-ce que ça rime avec gourmandise, cuisine vapeur? A priori, non.
A priori non, mais en fait les choses ont vraiment changé par rapport à ça, parce qu'on peut faire des plats très gourmands. On peut d'ailleurs faire des desserts à la vapeur, et on peut faire... En fait, elle est beaucoup plus saine parce que les matières grasses sont bien meilleures pour la santé quand elles ne sont pas chauffées. Donc, quand on les ajoute après, quand on ajoute des bonnes huiles crues, par exemple, après la cuisson, c'est excellent et ça peut être très gourmand, bien sûr.
D'ailleurs, vous nous avez amené des petites bouchées au citron. Racontez-nous un peu ce que vous avez fait à la vapeur.
Alors là, je vous ai apporté des petits sponge cakes au citron. Il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir des cuits vapeur ou même des petits paniers en bambou chez soi pour faire de la cuisine à la vapeur. On peut se débrouiller, je vais vous raconter comment. Donc pour faire ces petits sponge cakes, en fait, c'est un petit peu comme un 4 quarts, sauf qu'on va battre les blancs en neige. Donc je vais mélanger dans un cul de poule 30 grammes de sucre. Moi, j'aime bien utiliser du sucre complet. Les zestes d'un demi-citron, le jus aussi. J'ajoute les jaunes d'œufs, donc je sépare les blancs regarder jaune. Je vais mettre 25 grammes de poudre d'amande, 50 grammes de farine. Là, je vous ai mis de la farine de maïs, mais vous pouvez évidemment mettre celle que vous avez. Une pincée d'un bon sel gris, parce que ça change vraiment tout à la pâtisserie. Vous battez vos blancs d'œufs, vous mélangez le tout bien délicatement. Et là, vous pouvez mettre 15 grammes de beurre clarifié, une petite cuillère de crème fraîche épaisse. C'est vraiment délicieux. Ensuite, vous la mettez dans des petits moules et vous le mettez donc sur votre cuit-vapeur si vous avez, ou alors tout simplement sur votre cocotte, vous pouvez mettre, moi c'est une astuce que j'ai fait étudiante, je mettais une passoire tout simplement, et je mettais un moule un peu solide dessus. Donc évidemment, il y a de la buée sur les vitres, etc. C'est moins technique, mais ça marche très très bien aussi. On peut cuire à la vapeur avec une simple passoire chez soi.
En tout cas, Jacqueline Petros se régale avec vos bouchées au citron.
Très, très bon.
Pas besoin donc de s'équiper avec des ustensiles très coûteux, une casserole d'eau et un panier en bambou suffisent.
Moi, j'aime bien cuisiner avec des cuits vapeur douces, parce que je fais tout pour tout le monde, les légumes, les viandes, les poissons, les desserts, etc. C'est le mieux. En tout cas, je vous conseille, si vous investissez, d'éviter les cuits vapeur en plastique.
Oui.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est mieux d'utiliser un seul étage dans un cuit-vapeur. C'est-à-dire que quand on a des cuits-vapeurs avec plusieurs étages, on a des températures qui sont différentes, c'est très difficile à gérer, et il vaut mieux gérer son cuit-vapeur avec un seul étage. Et j'approuve ce que dit Angèle tout à l'heure sur le côté système D, puisque moi-même, j'ai le week-end dernier, j'avais pas de cuit-vapeur, et je me suis fait une merveilleuse salade d'aubergines avec exactement le système que vous décriviez, une écumoire sur l'eau bouillante, et pour l'aubergine, c'est le côté sucré était très intéressant dans ce qui était raconté là, mais l'aubergine, c'est un produit qui est très intéressant parce que c'est le produit qui absorbe le plus de matière grasse à la cuisson quand on le fait à la poêle, par exemple. Même si c'est délicieux, c'est quand même une bombe calorique, et on retrouve toutes les saveurs de l'aubergine par une cuisson vapeur et un assaisonnement à froid derrière, et ça, c'est vraiment merveilleux.
Grégory Cohen, vos conseils pour bien cuisiner vapeur, des astuces, des...
Oui, alors la cuisine vapeur, ce qui est aussi important de savoir, c'est que c'est une cuisine à chaleur douce. Et c'est une cuisine qui va hydrater. Donc en fait, c'est les deux points qui sont aussi intéressants, indépendamment du côté nutritionnel, effectivement, de déperdition, des vitamines et du reste, qu'on pourrait avoir par ailleurs. Cette cuisine-là, elle est douce et lente. Elle est bénéfique pour les aliments. En gastronomie, on utilise ça, par exemple, pour réaliser un œuf parfait. C'est 64 degrés et c'est 45 minutes. Et on a un œuf, quand on va le casser, qui va rester consistant. C'est-à-dire que le blanc va avoir coagulé d'une certaine façon, va avoir cuit légèrement. Et le jaune va être complètement cru à cœur. Donc ça, on peut le faire qu'avec un four vapeur.
Au cuit-vapeur aussi, on peut le faire.
Au cuit-vapeur aussi. On réalise son foie gras. À la vapeur, donc on n'est pas non plus obligé de se dire que la cuisson vapeur, c'est absolument quelque chose de pas de gras, hyper sain, hyper healthy, qui parfois rime avec morosité. Donc on peut aussi faire de la cuisson inventive avec une cuisson vapeur. On prend notre passoire, et idéalement une passoire en fer, hein, parce que en plastique c'est un peu plus compliqué, surtout avec la chaleur. Mais on a ce côté doux, enrobant, qui nous permet d'avoir une cuisson à cœur. On peut même imaginer faire, et c'est même mille fois mieux, une saltimbocca ou alors un cordon bleu cuit à la vapeur.
Vous cuisez à la vapeur, votre cordon bleu maison.
On peut faire son cordon bleu à 80% à la vapeur avant de le paner, parce qu'en réalité, la cuisson vapeur va rentrer à l'intérieur complètement de la viande, de la chair, et elle va nous permettre de faire fondre le fromage beaucoup plus facilement, alors que si on le met dans un bain de friture directement, bah, le fromage n'aura pas réellement fondu, on n'aura pas le même goût, donc on va réussir à avoir une cuisson qui est très intéressante. Et c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça, et c'est beaucoup plus facile à faire.
Angèle Ferromag.
Par rapport aux œufs, il y a quelque chose que j'aime beaucoup prendre dans les restaurants japonais qui s'appelle les osen tomago. C'est un petit peu leur version des œufs parfaits, qui sont complètement translucides, qui est servi avec une sauce dashi. Et en fait, les tomago, ce sont les bains de vapeur qu'on trouve naturellement dans les montagnes, dans lesquelles les Japonais vont se baigner. Donc là, c'est les œufs vapeur qu'on trouve et qui sont vraiment excellents. Je vous conseille d'en commander si vous allez dans un japonais.
Donc ce dossier consacré à la cuisine vapeur, on le retrouve
sur leparisien.fr dès ce matin.
Merci Laurent Guez. Il est temps de retrouver la recette du week-end de Grégory Cohen. Grégory Cohen, un plat vapeur à partager, l'un des plats préférés des Français, le couscous.
Eh ben oui, Ali, en fait, le couscous est aujourd'hui un des plats préférés des Français. Alors, ça fait polémique, est-ce qu'il est numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, on sait pas. Mais en attendant, c'est un des plats préférés. Et puis, c'est une preuve, s'il en était nécessaire, que la gastronomie française est en mouvement et se nourrit des richesses que créent les influences étrangères. Alors, la cuisine, c'est une découverte de saveurs, de goûts, mais aussi des histoires et des origines. Le couscous naît berbère, mais sans réelle frontière, entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et arrive en France avec les pieds noirs. On se rappelle de la fameuse publicité qui disait « c'est bon comme la badie », parce qu'à l'époque, c'était un peu folklorique. Aujourd'hui, c'est devenu un plat français. Je vous propose une recette de couscous aux légumes. On démarre par le bouillon. Alors, il nous faudra idéalement 7 légumes différents, car en dessous, selon les Marocains, ça ne mérite pas l'appellation de couscous aux légumes. Et là, on est déjà dans la guerre, Maroc, Tunisie, Algérie, lequel fait le meilleur couscous. Moi, j'ai mon idée. Nous prendrons donc des carottes, des navets, des pommes de terre, des courgettes, des potirons, des choux et des pois chiches. Et on démarre son bouillon. On met environ 2 litres d'eau dans le bas, la côté bas de son couscoussier, un cube de bouillon, une cuillère à soupe de rasel hanout, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de safran, une cuillère à café de piment doux, les pois chiches, et c'est tout. On va utiliser ce bouillon pour cuire notre semoule de blé à la vapeur. On mettra à peu près 1 kg de couscous, il faudra 1/4 de verre d'eau à température, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, et évidemment le fameux couscoussier. Si vous n'en avez pas, on l'a dit tout à l'heure, une passoire, ça pourra faire l'affaire. On va démarrer par étaler la semoule, verser l'huile d'olive dessus, mélanger avec le bout de ses doigts, puis ajouter l'eau et mélanger à nouveau, laisser reposer et disposer dans le couscoussier. On laisse cuire à couvert pendant 15 minutes. On ajoute ensuite les carottes dans le bouillon, on retire le couscous, on remélange avec les doigts, on ajoute un peu d'eau salée, les graines doivent se détacher, on remet le couscoussier, on continue la cuisson au bout de 15 minutes supplémentaires. On retire le couscoussier, on met le reste des légumes et une fois qu'on a terminé, on prend 20 minutes et le couscous est prêt. On le présente un peu de la façon dont on veut. Moi, généralement, je mets le couscous dans un grand plat, je décore avec les légumes, je sers le bouillon à part. Chacun pourra ainsi mouiller son couscous comme il le souhaite et ajouter de l'harissa pour un peu plus de piquant.
Laurent Guez, vous validez ?
Ouais, sur la question de lequel est le meilleur, en tant que fils, je sais lequel est le meilleur, c'est celui de
la mère. Hein.
En tant que gastronome, je choisis le marocain.
Christina.
Et les raisins secs, Grégory.
Ça dépend d'où on vient. Il y a aussi des fèves, on peut imaginer ce qu'on veut.
Et on peut retrouver cette recette de couscous sur votre compte Instagram, Grégory Cohen Off avec...
Deux F.
Allez, après les nourritures terrestres, les nourritures philosophiques assurées par Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'un télo la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Thibaut de Saint-Maurice, vous vous attaquez à un vaste programme, à un vaste sujet qui nous concerne toutes et tous, la connerie.
Ben oui Ali, je suis désolé, il faut bien l'accepter, hein. On est tous cons à un moment ou un autre de notre vie, ou bien on est tous le con ou la conne d'un autre, et puis enfin on se traite aussi régulièrement de cons les uns les autres, hein, au fur et à mesure de la vie. Mais il est vrai, pas toujours avec autant de gouaille que Jean Gabin dans le cave se rebiffe.
Un beau vin et des petites vacances, grand, l'air con.
Ça court les rues, les grands cons.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons. Il serait assez, ouais. Allez, fatigue pas tes vieilles jambes, je connais le chemin. Au revoir.
Alors si je vous parle de conneries ce matin, hein, c'est parce que commence lundi à Marseille la 13e édition de la semaine de la pop philosophie qui cette année a pour thème donc les constellations de la connerie. Une semaine de conférences et de débats pour réfléchir à cette tragédie du quotidien de la connerie sous toutes ses formes, hein, alors dans nos relations personnelles, en politique, sur les réseaux, dans le travail ou dans l'art.
Alors il y a conneries et conneries, il y a la bêtise, l'ignorance, la stupidité, comment ne pas confondre tout ça ?
Eh bien par un patient travail de distinction et de définition, pour ne pas confondre, pour ne pas amalgamer et mettre dans le même sac ce qui n'y a rien à y faire. Alors déjà, la connerie n'est pas le contraire de l'intelligence ou du savoir. Le philosophe Clément Rosset, dans son livre « Le réel traité de l'idiotie », distingue entre une sottise passive et une sottise active. La sottise passive, c'est l'ignorance d'une chose ou l'absence de compréhension d'une situation ou d'un problème. Elle n'y est pour rien et n'attend qu'une chose, hein, c'est d'être éclairée par une connaissance ou une explication. En revanche, la sottise active, c'est cette attitude qui consiste à se dévouer à une idée ou une activité absurde, hein, dit Rosset, déconnecter déconnectée de toute raison et ouverte à tout excès. Le con ose tout, dit-on, et c'est à ça qu'on le reconnaît. La connerie s'impose donc non pas comme un manque, mais au contraire comme une énergie pour faire, mais pour faire n'importe quoi. Alors comment devient-on con ? Alors, les causes sont multiples, hein, la peur, le désir de telle ou telle position sociale, les préjugés. Clément Rosset remarque que la sottise qui s'active est en fait paresseuse, parce qu'elle s'agite pour ne pas avoir à penser ou à affronter la complexité du monde. La connerie ne puise donc pas à un défaut de connaissance, mais à une fatigue qui naît donc du refus de considérer la réalité. Et donc, il ne suffit pas d'expliquer pour dissiper la connerie, mais il faudrait pouvoir faire naître un questionnement et en même temps rassurer. Le drame, c'est que cette connerie, on ne peut pas l'ignorer. Parce que on vit dans une démocratie où chaque voix compte et a le même poids qu'une autre. Donc la voix de mon conte voisin, par exemple, vaut autant que la mienne. Et si je ne m'en préoccupe pas, eh bien elles vont finir par s'annuler. C'est le drame, mais c'est aussi la vertu de notre forme de vie démocratique. Car si la voix de chacun compte, en démocratie, chacun a aussi la possibilité d'engager une conversation pour réduire cette connerie. La connerie ne vient pas de ce que chacun est voix au chapitre, mais de ce que nos conversations, personnelles, publiques ou médiatiques, ne soient pas plus approfondies, bienveillantes ou joyeuses. Au fond, tel est peut-être l'enjeu, montrer au con que sa paresse l'empêche de se réjouir de ce qui est. Plus que l'intelligence ou la connaissance, la joie n'est-elle pas le meilleur remède à la connerie ?
Pourquoi vous regardez comme ça, Laurent Guez ?
N'hésitez pas
à podcaster et à partager la chronique de Thibaut de Saint-Maurice sur l'appli France Inter et à la faire écouter à vos enfants et petits-enfants qui passent le bac philo. Cette année, dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazzara.
J'adore comme tu dis ça.
Et en attendant, on écoute Iliona qui interprète Une autre vie.
Sur ma peau, poisson dans l'eau, qui ne rêve qu'à s'unir pour survivre. Tes lèvres à moitié chaudes promettent des choses grandioses. Je rêve encore d'une autre vie. Je
une autre vie.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
La chronique sexe du vendredi avec Maya Mazorette. La sexualité peut donc se consommer à la vapeur ?
Mais oui, vous y avez tous pensé autour de la table. Les sonagais, l'imaginaire des hammams, les maisons de bain japonaises où les hommes payent pour se faire frotter et plus si affinité. On pense aussi à une version domestique toute simple du sexe vapeur, celui qu'on pratique dans la salle de bain, de préférence armée d'un tapis antidérapant. Un accident est vite arrivé. Mais venons-en au fait, pourquoi ça marche, ce truc de vapeur ? Eh ben, plein de raisons. Déjà, des questions logistiques. C'est un espace clos, à l'abri des regards, où traditionnellement on se promène nu, où il y a la chaleur de l'environnement qui rappelle la chaleur de l'excitation, et puis il y a des explications très physiques, comme l'effet vasodilatateur de la chaleur. Pas mal pour les sensations, pas mal pour les érections. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose. Le voile de vapeur va couvrir tous nos défauts, toutes nos matières grasses. Il va nous protéger, il va nous permettre de nous oublier 3 secondes dans une culture qui encourage le narcissisme. Et puis bien sûr, le même voile de vapeur qui recouvre le corps des partenaires, qui les entoure de mystères, qui nous donne envie de nous rapprocher. Moins l'autre nous en donne, plus on est obligé d'aller dans sa direction. C'est quasi mathématique.
C'est la base de l'érotisme, Maya. Il ne faut pas trop en montrer.
Ouais, et ça fait longtemps qu'on se demande pourquoi. Déjà au XVe siècle, le penseur humaniste italien Léon Battista Alberti, dans son livre 3 de son De Pictura, affirme que l'image du sentiment le plus fort est forcément invisible. Si on veut exprimer une émotion en peinture, par exemple, le plus efficace sera toujours de laisser du vide ou de voiler, mettre hors cadre, plonger les visages dans l'obscurité. De même qu'en art oratoire, le moment le plus puissant sera toujours celui pendant lequel on arrête de parler, le moment où on se retrouve sans voix. Mais pourquoi ça marche en fait d'en faire moins? C'est la nature, c'est la culture, est-ce qu'on est habitué, est-ce qu'on est programmé? Eh ben, il y a un philosophe allemand qui a une thèse là-dessus, c'est Heiner Mühlmann. Et là, suis-je en train de tenter de mettre Thibaut de Saint-Maurice au chômage? Je ne sais pas, peut-être. Heiner Mühlmann, donc, dans son ouvrage La nature des cultures publié il y a 25 ans, explique des tas de trucs sur le thalamus, l'amygdale et le cortex auquel j'ai strictement rien compris. Mais pour vous la faire brève, il conclut que plus une image est floue et rapide, plus elle stimule notre conditionnement affectif. Il en déduit le théorème suivant, une image distincte ne peut déclencher aucun affect. Si on veut être affecté, ce sont les images indistinctes qui fonctionnent le mieux.
Et pourtant, la plupart des gens vont chercher leur excitation en consommant de la pornographie.
Ouais, et là on tombe sur un vrai paradoxe. Pourquoi aller regarder du porno où tout est visible et même survisible, en gros plan, en haute résolution, alors que notre cerveau n'aime rien tant que le flou artistique? Eh ben, c'est pas du tout un paradoxe en fait. Si la pornographie est aussi populaire, c'est justement parce qu'elle permet de s'exciter sans être affecté. Avec le zoom, on peut faire un pas en arrière, on peut conserver nos distances. Avec l'explicite, on peut économiser notre imagination, pas besoin de se projeter ou de s'investir. En fait, on est dans le pur spectacle, produit pour la masse, donc jamais trop perso, jamais trop intime. En fait, c'est sécurisant. Et des fois, bah franchement, on a besoin d'être sécurisé. À ce titre, le succès du porno est tout aussi compréhensible que celui des saunas. 2 salles, 2 ambiances, 2 manières complémentaires de fantasmer. La vapeur, c'est l'anti-pornographie. La vapeur, c'est ce qui arrive au désir quand il se met en danger. Je vous souhaite, je nous souhaite pour ce week-end, de plonger dans le grand bain bouillant de l'érotisme.
Et grâce à toi, Maya, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. La chronique sexe de Maya Mazorette à partager sur l'appli France Inter. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. Merci Laurent Guez, Julien Bisson, Angèle Ferremag, Grégory Cohen, Christine Lapelédouelle et Jacqueline Petrose. J'espère que vous reviendrez dans Grand Bien Vous Fasse.
Avec grand plaisir.
Pour parler de poche. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron et de Christophe André. Et lundi dans Grand Bien Vous Fasse avec le mensuel Marie-Claire, une émission santé consacrée au tabou de la santé mentale. On s'intéressera aux tabous qui peuvent entourer le trouble bipolaire, la schizophrénie ou encore la dépression. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser un message ou une note vocale sur l'appli France Inter.